ce matin, j'aimerais que vous connaissiez le plus grand sujet de joie au monde. J'aimerais que vous expérimentiez la joie immense que ce sujet procure. Et si ce sujet de joie vous donne moins de joie aujourd'hui, car vous vous êtes refroidi, j'aimerais que vous la retrouviez après ce message. J'aimerais, mais je suis convaincu que, au-delà de mon désir en fait, c'est le désir de Dieu pour nous ce matin. Ce sujet de joie rend capable de tenir bon dans les moments les plus difficiles de ta vie. Ce sujet de joie pousse à faire la fête et à nous réjouir. Mais quand tout va mal, ce sujet de joie reste présent en nous car il apporte une espérance et une paix que personne ne peut donner. Amen. Ce sujet de joie est une bonne nouvelle que Jésus n'a cessé de donner à ses amis, à ses disciples. Il a prêché ce message pendant plusieurs années. Cette bonne nouvelle de Jésus, vous la connaissez. Et je vais la dévoiler petit à petit dans quelques instants. Mais que se passe-t-il? Jésus qui avait donné à plusieurs reprises à ses disciples le sujet de joie le plus extraordinaire au monde souffre et meurt. Est-ce que c'est un accident? Ne pouvait-il pas y échapper, lui qui se disait être le Messie? Jésus a vécu quelque chose qui a mis ses disciples dans une totale incompréhension. Jésus qui parlait si bien, qui accomplissait de nombreux miracles, qui annonçait la nouvelle la plus extraordinaire, va être arrêté, insulté, craché au visage, battu de coups de fouet, déshabillé et enfin cloué sur une croix, mains et pieds. La croix était la mort la plus horrible, la plus dure, la plus douloureuse, la plus sadique de l'époque. C'était l'instrument utilisé pour les plus grands criminels. En lisant l'arrestation de Jésus et sa mort, il y a de quoi être dans une incompréhension totale. Et plus on avance dans la lecture, plus la colère s'intensifie. Car il a subi l'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation au plus haut point. Jésus ne dit presque rien. Il va mourir comme les plus grands criminels de l'époque, alors que tout le récit crie très fort, innocent. Les disciples sont dans l'incompréhension la plus totale, non seulement parce que Jésus est mort, mais aussi parce que le tombeau est vide. Le tombeau tombe. J'aimerais regarder avec vous comment les amis de Jésus ont vécu ce moment surprenant du tombeau vide. Parlons de Marie de Magdala. C'est une femme qui a suivi Jésus dès le début de son ministère. Par lui, elle a été délivrée de 7 démons. Waouh ! Elle n'est plus dans les ténèbres. Elle est maintenant dans la lumière de Dieu, dans la paix. Alors qu'avant, les démons la tourmentaient, la voilà délivrée dans une paix immense. Elle a assisté à la crucifixion de Jésus. Dans sa tristesse, elle veut oindre son corps qui est dans le tombeau. Elle veut donner au corps de Jésus tout le respect et la reconnaissance qu'elle lui doit. Mais en arrivant au tombeau, il est ouvert et vide. À cause de cela, elle court vers Pierre et Jean. À bout de souffle, elle dit cette mauvaise nouvelle chapitre 20, verset 2, on a enlevé le Seigneur de la tombe. Et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Elle retourne sur les lieux, fatiguée et remplie d'une profonde tristesse. Elle s'arrête près du tombeau et pleure. Parlons de Jean. Lui aussi a suivi Jésus tout au long de son ministère, car il lui a fait l'honneur d'être son disciple. Il est lui aussi dans une totale incompréhension face à la mort de Jésus. Et il reçoit avec Pierre la nouvelle de Marie que le tombeau a été enlevé. Il court tellement vite qu'il arrivera, il arrive devant la tombe le premier bien avant Pierre. Le texte nous dit au verset 5, en se penchant, il vit le linge funéraire par terre, mais il n'entra pas. Parlons maintenant des disciples. Ils ont été choisis par Jésus et l'ont suivi pendant plusieurs années. Et d'un coup, il n'est plus là. Ils sont dans une profonde tristesse. Ils ne comprennent pas pourquoi il est mort. Pour eux, le Messie ne mourrait pas. Dans leur lecture des prophéties, le Messie vient en roi. Il vient pour régner. Il ne vient pas pour mourir. Mais Jésus est bien mort. La Bible dit ceci au verset 19. Les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur. Jésus leur avait dit qu'il ressusciterait, mais les disciples sont quand même tristes. Ils ont peur des chefs juifs qui sont ennemis de Jésus et qui l'ont fait mourir. Ils ont peur de subir le même sort que lui. Voilà pourquoi les portes restent fermées, bien verrouillées. Jusqu'ici, la mort de Jésus a amené ses amis dans une profonde tristesse. Une totale incompréhension et la peur de subir la même condamnation à mort que lui. Mais d'un coup, pour les uns et progressivement pour les autres, ils vont passer de la tristesse et de l'incompréhension à la joie et à la foi. La première personne qui a cru, c'est c'est Jean. Quand il est allé au tombeau, il a remarqué que le corps de Jésus est non seulement plus là, mais que les linges sont restés bien enroulés comme si le corps était passé à travers. Écoutez bien. En voyant cela, le texte nous dit ceci au verset 8. Il vit et il crut. La deuxième personne, c'est Marie. Elle s'arrête près du tombeau et pleure. En approchant sa tête du tombeau, elle aperçoit deux anges qui lui posent la question suivante. Pourquoi pleures-tu? Ce qui est une question bizarre, n'est-ce pas? Ce qu'ils savent très bien. Elle répond, puis c'est Jésus lui-même qui est là et qui lui repose cette même question. Pourquoi pleures-tu? Et il ajoute, qui cherches-tu? Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui explique la situation. Et voici ce qui se passe au verset 16. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, Rabboni, ce qui veut dire maître. Marie reconnaît ici que c'est bien Jésus. Il n'est pas mort, il est vivant. D'un coup, c'est clair, elle devait certainement être saisie là d'une joie immense en le voyant vivant. Et Jésus, très vite, prend bien soin de lui dire qu'il ne faut pas le retenir, car il doit partir auprès de son Père. qu'ils avaient bien verrouillé les portes par peur des leaders juifs, Jésus vient au milieu d'eux. Et là, on se dit, mais comment il a fait? Il y a de quoi avoir peur. Le verset 19 nous dit juste, Jésus va. Il se trouva là, au milieu d'eux. Et donc, on peut comprendre que, en ayant bien verrouillé les portes et d'un coup, Jésus est là, on peut comprendre que Jésus dit la suite. Que la paix soit avec vous. Et oui, on en a bien besoin. Il dit cela afin d'apaiser petit à petit la peur qui a envahi leur cœur et aussi leur honte de s'être enfui lors de son arrestation. Ils sont à la fois dans la peur et dans la joie. Jésus montre ses mains et son côté. Un moment fort ici. Les disciples éprouvent donc là de plus en plus de joie, certainement, de voir que mais c'est vraiment lui, il est là. Jésus redit, et on peut comprendre aussi qu'il leur dise, que la paix soit avec vous. Et il ajoute, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il fait quelque chose d'étrange. Il se met à souffler sur chacun d'eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Quelque chose qui était vraiment fort dans le cœur de Jésus, c'est que ses disciples reçoivent la présence de Dieu en eux. Il leur donne ensuite comme mission de prêcher la bonne nouvelle, dont il ne cessait de parler avant sa mort. Les disciples passent de la peur et la tristesse à la joie. Mais il y a un dernier personnage qui est difficile à convaincre. Oh, qui c'est? Ben c'est notre cher Thomas. Soyons gentils avec notre ami. Hein. C'est l'un des 12 disciples. Il n'était pas là quand Jésus est venu voir les disciples. Certainement très perturbé par la situation. Voilà pourquoi, peut-être, il n'était pas présent avec les disciples. Les autres disciples disent avec certainement une joie éclatante, Jésus est vivant! Mais il ne veut pas croire. Pourquoi il veut voir? Je veux voir la marque des clous, et bien plus, mettre mes doigts à la place des clous, et mettre ma main dans son côté où il a été percé. On serait les autres disciples, attends, t'en fais un peu trop là. 8 jours après, les disciples sont toujours enfermés dans la maison. Thomas est avec eux. Et Jésus vient de la même manière, miraculeusement. Paf, il est là en plein milieu. Oh. Et quelle phrase? Que la paix soit avec vous. Il s'adresse cette fois-ci à Thomas. Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets là dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus savait bien ce qu'il y avait dans le cœur de Thomas pour pouvoir s'adresser ainsi, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que Thomas déclare la suite, qui est une déclaration très forte. Mon Seigneur. Seigneur et mon Dieu. Thomas n'est pas en train de s'exclamer ou d'être surpris comme certains le disent en disant « Oh mon Dieu !» Nous sommes encore dans une époque où plusieurs prononcent Dieu très facilement quand ils s'expriment, sans surprise, quand ils sont surpris, s'exclament ou quand ils ont peur. On peut même employer le nom de Dieu à des moments où on se dit « Il ne devrait jamais sortir de notre bouche. » Mais à l'époque de Jésus, ce n'était pas le cas. On n'utilisait jamais le nom de Dieu en vain, sans respect. À cette époque, on ne prononçait pas le nom de Dieu. Il y avait d'autres choses qu'on utilisait pour cela, mais on évitait en fait. Tellement le respect était fort ici. C'est impossible d'imaginer qu'un juif pur comme Thomas puisse utiliser le mot Dieu à un moment où il s'exclame. Et plusieurs veulent contredire ce texte. Notre religion par rapport à ce texte pour dire mais non, Thomas disait Dieu, mais il n'était pas en train de faire une déclaration forte. Mais relisons le texte et regardons bien dans quelle époque nous sommes. Thomas fait ici une confession stupéfiante. Il reconnaît que Jésus est vraiment divin. Il est Dieu en personne. Et Jésus ne lui dit pas que tu fais une blasphème. Jésus est d'accord. Jésus dit enfin quelque chose d'encourageant pour nous, à Thomas. Il dit que ceux qui croient sans avoir vu sont heureux. Thomas était enfermé dans le doute. Le voilà dans la joie et la foi. Nous pouvons remarquer dans ces différents personnages que nous venons de voir qu'ils passent tous de la tristesse et l'incompréhension à la joie et à la foi. Tous ont bien vu que Jésus est mort. Et tous étaient dans la tristesse, pensant que la mort allait le retenir prisonnier. Mais quand ils le voient, leur tristesse, leur incompréhension et leur doute laissent place à la joie et à la foi. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Dans les différentes paroles de Jésus, j'ai remarqué qu'il se porte toujours vers l'avenir. Écoutez les quelques textes ici, verset 17, quand il parle à Marie de Magdala. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Alors, je fais juste une parenthèse ici. J'avais dit vendredi soir que c'est la seule fois où il disait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et j'avais dit c'est la seule fois où Dieu, Jésus dit de Dieu, enfin dit, s'adresse, parle de son Père en disant Dieu. On a encore cette mention-là, en fait, mais qui n'est pas une prière. Donc, c'est juste redire la nuance. La seule fois où Jésus s'adresse à son Père en disant Dieu, dans la prière, c'est au moment de la croix. Et à ce moment-là, on voit quand même cette mention de mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Regardez en la suite. Quand il parle à ses disciples, il leur donne une mission. Donc, Jésus se présente à ses disciples, il n'est pas juste là, vous avez juste ressuscité, c'est génial. Non, il regarde devant, il parle de l'avenir et il les invite à vivre leur mission. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ensuite, quand il parle à Thomas, comme nous l'avons vu tout à l'heure, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a ses yeux qui sont portés vers l'avenir. Jésus va partir au ciel car il a pour but d'envoyer son Saint-Esprit. Il donne une mission à ses disciples. Parler de sa mort et sa résurrection qui rend possible le pardon des péchés à ceux qui croient. Et il fait comprendre que nous pouvons croire sans le voir. Cela n'est pas du tout croire sans réfléchir, bien sûr. Car ce qui nous amène à croire, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Le témoignage des croyants et l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà, nous venons de voir ensemble que les amis de Jésus sont passés de la tristesse et la compréhension à la joie et à la foi. Mais peut-être que ce matin, en entendant tout cela, certains se posent plusieurs questions. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. Peut-être que vous vous demandez, mais est-ce que Jésus est vraiment mort ? Peut-être qu'il était juste endormi. Après tout ce que nous avons vu et lu, nous pouvons dire qu'il a vraiment été cloué, et en plus de ça, percé sur le côté. Ensuite, le texte dit bien que le tombeau était vide. Donc ça, c'est plus par rapport à la résurrection. Nous ne pouvons pas croire un seul instant que Jésus se soit juste évanoui sur la croix, qu'il ait repris connaissance dans le froid du tombeau, et soit ensuite sorti tout seul. Plusieurs témoignent que Jésus est bien mort. Jésus s'est montré à plusieurs disciples et amis. Il est apparu en personne à plusieurs reprises pendant une période de 6 semaines après sa résurrection. Pour ceux qui connaissent les textes, à combien de frères à la fois? 500. Et à l'époque, on ne mentionnait pas trop les femmes, donc on sait très bien qu'il y avait certainement plein de femmes aussi à qui il s'est présenté. Donc au-delà de ça, on a non seulement les textes bibliques qui l'affirment, mais aussi l'histoire et les textes historiques. Les disciples qui l'ont vu n'avaient pas des hallucinations. Le récit nous montre qu'ils avaient des difficultés à croire tout de suite, mais qu'ils ont ensuite petit à petit cru. Et on voit bien ce qui s'est passé puisqu'ils l'ont vu. Il n'y a donc pas eu d'invention ni d'hallucination, mais une apparition réelle de Jésus-Christ ressuscité. L'autre chose qui atteste la résurrection de Jésus-Christ, c'est la naissance de l'Église. Il a fallu que quelque chose d'important se produise pour que les apôtres soient transformés au point d'aller parcourir le monde. Au moment où Jésus meurt, ils étaient dans le chagrin, perplexes et terrifiés. Mais en moins de 2 mois, ils réapparaissent rayonnants de joie, remplis de confiance et animés de courage. Ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Qu'est-ce qui a pu les transformer de cette manière, d'une manière aussi radicale? La résurrection de Jésus-Christ et bien sûr l'œuvre du Saint-Esprit. La disparition du corps, les apparitions de Jésus-Christ lui-même et la naissance de l'Église sont des arguments forts qui soutiennent solidement notre foi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Toi, si tu entends tout cela et tu dis oui, mais bon, voilà, 3 petits points. Peut-être que toutes ces choses ne t'amènent pas plus loin. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a amené dans les bras de Dieu. C'est que Dieu est vivant. C'est que Dieu est vivant. Quand Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui sans avoir vu, c'était une excellente nouvelle pour nous. Pour Jésus, il est possible de croire sans voir. Nous n'avons pas vu de nos yeux la preuve physique de sa résurrection, mais nous sommes bien plus en mesure d'y croire que notre cher Thomas. Non parce que nous le voyons physiquement, mais seulement grâce non seulement à la parole de Dieu qui l'atteste, mais aussi grâce à l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ma vie, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste ces vérités en nous. Le jour où j'ai dit, je me suis approché de Dieu et que j'ai touché, entre guillemets, on pourrait dire comme cette femme qui a touché vainement de Jésus, quand j'ai fait cette rencontre avec Dieu, j'ai commencé à m'approcher de Dieu et à placer ma foi dans ce sacrifice de Christ mort pour moi. Dieu a changé ma vie. J'ai reçu l'assurance de la présence de Dieu. Une paix immense a inondé mon cœur. Est-ce que je suis le seul à avoir vécu ça? Levez vos mains ceux qui ont vécu cela. Bon, voilà, en plus, même les témoignages l'attestent. On n'est pas juste sur du papier et quelque chose d'écrit. On est aussi sur une œuvre surnaturelle de Dieu. La Bible dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver. Il se laissera trouver. Tu as des doutes? Pas de souci, tu es la bonne personne pour avoir la foi. Aujourd'hui, plusieurs sont convaincus de la résurrection de Jésus-Christ à cause de l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Peut-être que vous vous demandez maintenant, mais pourquoi Jésus-Christ est-il mort et ressuscité? À quoi ça sert? Je l'ai un peu dit jusqu'ici. Voilà enfin, pour vous, pour nous, la nouvelle la plus extraordinaire au monde. Il fallait que Jésus-Christ meure pour nous, à notre place. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs, séparé de Dieu. Il y a une séparation nette entre nous et Dieu à cause du péché. Le péché, c'est être centré sur soi. Dieu nous a laissé deux grands commandements. Premièrement, l'aimer lui de tout notre être. Et deuxièmement, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le péché inverse cet ordre. Nous prenons la première place, c'est-à-dire nous prenons la place de Dieu. Dieu sait bien, tu m'as créé, tu as fait tout ça, et c'est très bien. Maintenant, reste dans ton ciel, moi je fais mes affaires. Ne me dis rien, je fais ce que je veux. Ah bon? Nous prenons la première place et nous vivons notre vie en étant indépendants de Dieu. Nous mettons le prochain au second plan, au second rang, quand cela nous arrange. Et Dieu, tout à fait à l'arrière-plan. Nous n'arriverons jamais à rétablir notre relation avec Dieu parce que nous sommes tous esclaves du péché. Vous pouvez passer des heures à prier, des heures à venir à l'église. Ce n'est pas ça qui va vous rétablir la relation avec Dieu. Seulement l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà le sujet de joie le plus extraordinaire au monde. Jésus-Christ vient, il meurt, il ressuscite pour le pardon de nos péchés. Il a rétabli notre relation avec Dieu pour toujours. La résurrection de Jésus-Christ nous donne alors l'assurance du pardon de Dieu, nous rend capables de vivre comme Dieu le veut, par son esprit en nous, et enfin nous remplit d'assurance pour notre avenir, car après la mort, nous recevrons un corps ressuscité et transformé. La résurrection de Jésus-Christ et sa victoire sur la mort nous rend capables d'affronter le passé, le présent et l'avenir. Nous pouvons affronter le passé, quel que soit le mal que nous avons fait, parce que nous avons l'assurance que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Nous pouvons affronter le présent, quelles que soient les tentations et les responsabilités ou les épreuves que nous traversons, parce que Christ, Jésus-Christ, par son œuvre à la croix et son esprit, agit en nous et nous permet de nous donne la paix, quelles que soient les circonstances, et nous aide à traverser les épreuves par sa paix en nous. Il nous aide aussi à être agréable par l'action de son esprit. Et nous pouvons aussi affronter l'avenir, quelles que soient les incertitudes qui pèsent sur nous, parce que nous avons l'assurance que Jésus-Christ a vaincu la mort, qu'il reviendra nous chercher et que nous ressusciterons après notre mort pour vivre pour toujours avec lui. Votre amen est vraiment petit. J'aimerais maintenant conclure. Vous avez entendu le plus grand sujet de joie au monde. Est-ce que vous avez cette joie ce matin? Est-ce que vous avez reçu le pardon des péchés, l'assurance de la présence de Dieu, la vie éternelle? Si ce n'est pas le cas, alors venez à Jésus. Venez à Jésus. N'attendez pas demain. Demandez-lui pardon pour tous vos péchés et placez votre foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes refroidi devant l'œuvre de Jésus-Christ et tout ce qui en découle? Alors demandez pardon à Dieu. Demandez-lui de toucher à nouveau votre cœur et de vous bouleverser par l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à demander ces choses dans un court moment de silence. Prenons ce temps maintenant dans la présence de Dieu. Dieu notre Père, merci infiniment pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette histoire vraie n'est pas écrite pour rester dans nos bibliothèques, mais pour que nous ayons une relation personnelle avec toi. Jean, ton disciple, a lui-même écrit qu'il a écrit l'Évangile pour que nous possédions la vie éternelle en Jésus-Christ. Je te demande que ceux qui ne l'ont pas encore reçu, cette vie éternelle, cette relation rétablie avec toi, puissent faire appel à toi et en recevoir l'assurance. Pour nous qui sommes familiers, familiers de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que ce message continue à nous toucher, nous bouleverser et transformer notre vie quotidienne. Et que nous proclamions ce message à tous ceux que nous connaissons et qui ne t'ont pas encore rencontré. T'en supplions que notre amour pour toi et pour les autres ne cesse de grandir pour ta seule gloire et notre plus grand bonheur. Amen. Amen. Tout est accompli. Jésus est ressuscité. Soyez bénis.